charmé par le premier, nous sommes recharmés par le second. Et il se trouve en plus que Clément, après avoir fait sa découverte, nous avons eu aussi l'occasion de faire sa connaissance. Et puis, c'est devenu un compagnon de route de la librairie depuis 2 ans. Qui nous a vraiment bien, voilà, il nous a bien accompagnés pendant donc 2 ans de galères parfois, mais aussi de rencontres agréables, touchantes, drôles parfois. Et voilà, donc on est vraiment super content de l'avoir parmi nous comme invité cette fois-ci. Alors Clément, donc c'est un garçon qui a déjà fait beaucoup de choses, qui a déjà une vie derrière lui, même s'il est très jeune. Alors, il a fait des études assez brillantes, enfin, en tout cas, aventurières. Il a commencé par une licence de lettres modernes, peut-être avant même une prépa, une licence de lettres modernes, quelques mois à l'IJBA de Bordeaux, l'école de journalisme, et puis, en ce moment, actuellement, un master de recherche en études littéraires. Qu'il a terminé, je pense, brillamment ces derniers jours.
Oui, voilà. En tout cas, j'ai terminé.
Voilà, donc Clément, donc, comme je disais tout à l'heure, nous l'avons découvert avec l'été slovène, qui relatait la fin d'un amour entre deux jeunes gens le temps de vacances en Slovénie. Et il nous avait déjà charmés par son humour un peu désinvolte et en même temps avec un petit côté romantique teinté de délicatesse, on peut dire, mais surtout avec beaucoup d'humour. Et il se trouve que dans Lève-toi et charme, son deuxième roman, il recommence avec l'histoire d'un étudiant en géographie qui s'exile à Berlin parce qu'il a un peu de mal à terminer sa thèse en France. Donc son maître de recherche, son directeur de recherche, lui propose d'aller travailler ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, au moins pour avoir peut-être un peu de matière, ou peut-être aussi pour essayer de travailler un peu plus précisément, parce qu'apparemment, il serait un petit peu atteint de procrastination, comme on dit. On va en parler plus tard. Et puis, donc, ce jeune étudiant s'en va à Berlin. Et là, il va vivre de grandes aventures. Pas beaucoup travailler, mais surtout rencontrer une jeune fille qui s'appelle Dora, qui est complètement fantasque, irrésistible, mais invivable. Le problème, c'est que ce jeune étudiant nourrit aussi beaucoup de scrupules, puisqu'il a laissé à Paris sa petite amie, Annabelle. Et voilà, ce personnage, ce héros coincé entre deux filles, avec tous les atermoiements que ça suppose. Voilà. Donc, nous allons peut-être parler un petit peu du début de ce livre. Alors, d'abord, moi, il y a quand même quelque chose que j'aimerais savoir, c'est que aussi bien dans l'été slovène que dans Lève-toi et charme, le héros voyage beaucoup. Mmh. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le voyage et pourquoi ce besoin de délocaliser vos personnages.
Mmh. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci, Sylvie, de me recevoir. Je suis ravi de revenir à la librairie Mola de l'autre côté du micro. Et pour vous répondre, eh bien, disons que moi, je me suis toujours senti européen. Et je pense que c'est non seulement un trait des personnes qui sont nées à mon époque, mais aussi peut-être justifié par le fait que quand j'étais adolescent, j'étais passionné par le basket américain. Et quand on est passionné par le basket américain, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'eux, ils considèrent l'Europe comme une espèce d'entité... unie. Et quelque part, je me reconnaissais dans cette espèce d'entité. Et en plus, dans la nécessité de bouger et d'aller un peu à l'autre bout du monde à chaque fois, je pense qu'il y a cette espèce d'injonction implicite contemporaine qui est du fait que nous avons la possibilité de voyager pour pas cher et en plus... avec des temps de trajet qui sont de plus en plus réduits, cette possibilité s'accompagne en fait d'une injonction implicite. Et, Et il me semble que on est presque tenu aujourd'hui de c'est la nouvelle norme, il faut se catapulter à l'étranger, quoi. Voilà.
Alors de même, cet étudiant est donc thésard en géographie, comme était déjà l'étudiant de l'été slovène. Alors pourquoi la géographie ?
Alors il y a plusieurs raisons. Déjà c'est un petit comment dire ? Une espèce de contre-pied dans la mesure où moi-même j'étais nul quand j'étais au lycée en histoire géo. J'ai vraiment été toujours un élève assez piètre. Et donc ça, c'était la première chose. Après, il y avait le fait que je voulais faire un hommage à Julien Gracq, qui était professeur de géographie, qui est un des écrivains que j'apprécie le plus. Et la dernière chose, qui est en fait peut-être la première chronologiquement, c'est que dans mon premier roman, le narrateur est amené à un moment à faire une métaphore filée sur le couple qu'il fête avec une jeune fille nommée Elena. Il fait une métaphore avec un phénomène géologique qui s'appelle un tombolo, qui est une espèce de langue de terre, une métaphore que je ne vais pas forcément développer ici. Mais j'avais envie de faire cette métaphore. Et c'est ça que je trouve assez plaisant dans la construction d'un roman, c'est que parfois, là où on pense que l'idée générale du roman prédétermine tous les détails qu'il contient, en l'occurrence, ça s'est fait dans le sens inverse, puisque c'est ce détail qui a décidé, en quelque sorte, que les deux héros allaient étudier la géographie. Sans quoi, je n'aurais pas pu l'amener de manière raffinée, quoi.
Bon, alors, il se trouve donc que ce jeune héros doit soutenir une thèse, ou en tout cas est en train de décrire cette thèse, selon laquelle... Les nouvelles technologies de communication numérique peuvent recréer le lien social tout en bouleversant l'espace, ou en tout cas voilà. Donc vous-même qui êtes un adepte des nouvelles technologies, puisque vous êtes super câblé à tout, Facebook, etc., blog, Facebook, enfin bon, j'en laisse parce qu'il y en a plein, tweet évidemment, puisque Clément est aussi un grand Twitter.
À mes heures perdues.
Ouais. Twittos, on dit. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire d'écrire un livre là-dessus ?
Alors ça, c'est effectivement une question importante du livre, puisque c'est donc effectivement le sujet de la thèse du narrateur, et qui essaie de montrer en fait au contraire de cette idée légèrement reçue selon laquelle les nouvelles technologies seraient en fait le fer de lance de l'individualisme et refermeraient les gens sur eux-mêmes, le narrateur essaie de prouver que c'est le contraire et qu'en fait, par les nouvelles technologies, on arrive à recréer du lien. Et j'y réfléchissais en fait il y a 2-3 jours, c'est drôle parce que je me disais, moi je tiens pas à tout prix à avoir des amis. Disons que l'amitié pure, ça m'intéresse pas. Et il se trouve que par les nouvelles technologies, j'ai rencontré certains de mes meilleurs amis. Et notamment parce que par le biais de ces réseaux, Twitter notamment, que j'utilise pas mal, il y a une espèce de phénomène qui est que, quelque part, les points de... les centres d'intérêt finissent par se rejoindre. Et donc, on en vient à rencontrer des gens que nous n'aurions jamais rencontrés dans la vie réelle, en fait. Par exemple, moi, je discute souvent sur Twitter avec un type qui poste des espèces de poésie sur Twitter, et qui habite Lyon, Lyon où je vais assez rarement. Donc, il y avait quand même peu de chances que je le rencontre. Et donc, j'aime bien cette idée de forcer un peu le destin. Et... je me demande s'il n'y a pas, dans la condamnation des nouvelles technologies, un message implicite qui serait « Trouvez vos amis près de chez vous et ne nous embêtez pas », quoi. Comme si, au fond, l'amitié était une espèce de chose qu'on pouvait créer avec n'importe qui à partir du moment où il est humain, quoi. Vous voyez ? Et en fait, ce narrateur qui est parti avec cette idée de contredire... une sorte idée reçue récente, cela dit, puisque c'est né avec les nouvelles technologies. Il se rend compte finalement qu'il ne va pas pouvoir non plus écrire un panégyrique parce que ça lui pose aussi des problèmes, ces nouvelles technologies. Dans la mesure où lui, il est relié à sa petite amie qui est à Paris, seulement par WhatsApp, Skype, Twitter, enfin, et puis les trucs de dialogue en chat sur Facebook. Et en fait, il se rend compte que la facilité de la communication fait que finalement on n'échange plus des messages essentiels. Là où peut-être à une époque où il n'y avait pas tous ces systèmes, par le fait d'employer des méthodes de communication peut-être plus construites, comme une lettre qui crée quand même un cérémonial, et bien on en venait par conditionnement peut-être à dire des choses qui nous étaient plus chères ou plus profondes. De sorte que là il se rend compte que pour ce qui est de l'éloignement, ça n'a à peu près que des défauts, puisque non seulement il y a l'absence physique, mais en plus il n'y a pas cette sorte d'élévation de pensée qu'on pouvait attendre de la part non seulement du rituel de la lettre, mais en plus de la rareté de la lettre. Voilà. Mais après, il se trouve qu'auprès de cette jeune fille qu'il rencontre à Berlin et qui s'appelle Dora, c'est aussi un moyen pour lui de garder contact avec elle et de la voir réellement dans le monde réel. Et donc, il lui arrive toutes sortes de mini-aventures, mais qui sont toujours la conséquence d'un embrayage qui s'est fait par texto, par téléphone, par quelque chose comme ça.
Oui, d'ailleurs, on raconte pas les détails du livre, mais en effet, la rencontre avec Dora se fait déjà dans des conditions assez particulières, puisqu'ils se rencontrent dans un lavomatique, et que Dora, quand le héros lui demande comment il peut faire pour la revoir, va lui donner son numéro de téléphone en cochant les pages d'un livre qu'elle avait dans les mains, et sans lui donner l'ordre.
Oui, enfin, encore non.
Si, en lui donnant l'ordre, mais, oui. Mais en imaginant qu'il va s'en souvenir. Voilà, donc en effet, la rencontre avec Dora se fait sous le signe du jeu tout de suite. Et pourtant, même si Dora est charmante et irrésistible, elle est aussi invivable. Alors, il se trouve que Dora a un nom très particulier. Elle s'appelle Dora. Donc évidemment, pour ceux qui ont fait... qui ont quelques souvenirs en philosophie ou en psychanalyse, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, Dora, c'était le nom d'une jeune fille qui était une patiente du docteur Freud. Alors, est-ce que, évidemment, Clément, vous y avez pensé, et pourquoi vous avez appelé cette jeune fille Dora ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, Sylvie. Oui, c'est vrai. En fait, donc en exergue de ce livre, il y a une citation d'André Breton qui vient du Manifeste du surréalisme. Mais en première instance, je voulais mettre une citation de Freud. Donc ce livre qui s'appelle « Le cas Dora, fragment d'une analyse d'hystérie », qui est un des livres, si vous n'avez jamais lu Freud, jetez-vous sur ce livre qui est, et c'est ça qui m'intéresse, qui est assez romanesque en fait, et qui ressemble par bien des aspects à un roman qui est pour moi un roman policier, dans la mesure où Freud, dans ce livre, essaie de retrouver l'événement traumatique chez cette jeune fille qui vient le voir et qui, en fait, ne lui donne pas beaucoup d'indices par la parole, mais qui fait beaucoup de gestes que lui arrive à interpréter. Elle a une espèce de porte-monnaie qu'elle manipule, ou alors à un moment, elle se met à tousser, et puis il est toujours en train de la fliquer, c'est le cas de le dire. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant, parce que, finalement, dans ces récits de cas, ça ressemble effectivement à des enquêtes policières. Je me souviens d'avoir vu le film sur Ben Laden, je sais plus comment ça s'appelait, Zero Dark Thirty, de Miss Catherine Bigelow. Et en fait, c'est assez marrant parce que les deux types qui possèdent, enfin qui savent où est Ben Laden, qui sont ces hommes de main, en fait, quand ils téléphonent pour pas se faire repérer par les radars, ils sont dans une bagnole dans la ville et puis ils font des tours comme ça. Et les deux Américains qui essaient de les intercepter, ils sont en planque je ne sais où. Et en fait, ils les voient passer devant eux très vite comme ça. Et en voyant ce film, je me suis dit, mais c'est drôle parce que ça ressemble beaucoup à la psychanalyse, dans la mesure où on essaie de trouver quelque chose qui est enfoui. Et cette chose, elle ne ressort, elle ne se manifeste que de manière circulaire et assez rare. Et il faut avoir la clairvoyance et la sagacité de Freud pour apercevoir cet indice. Et donc voilà, d'où effectivement l'hommage à Freud dans ce roman, puisque c'est Dora a donné son nom à un personnage qui effectivement porte une histoire pas très drôle, quoi, et qu'elle essaie un peu de dissimuler.
Pas très drôle, c'est pour cela d'ailleurs qu'elle veut essayer de recréer un petit peu, de recréer sa vie tout le temps. Donc c'est ce qui explique pourquoi elle est si invivable, peut-être. Cela étant, elle est quand même suffisamment intéressante pour le narrateur, pour qu'il ait envie de la suivre partout dans Berlin, souvent dans des lieux assez cocasses parfois, ou étranges. Et donc, je disais tout à l'heure, en fait, il y a toujours cette idée du jeu. Et en fait, je trouve que c'est un livre, justement, qui est vraiment toujours sous le signe, voilà, sous ce signe-là. Et alors, pourquoi, justement, vous avez eu envie, comme ça, de jouer, là, comme ça, avec le lecteur ?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un aspect ludique qui vient peut-être de mes lectures aussi, parce que moi j'adore un écrivain qui s'appelle Éric Chevillard, qui passe son temps en fait à dérouter, à prendre le contre-pied toujours. Et c'est vrai que bon, il faut pas non plus que ça tombe en système, parce que ça peut être gonflant, mais disons que quand on a le mécanisme du roman bien en tête et l'horizon d'attente, ce qu'on appelle l'horizon d'attente, c'est-à-dire tous les codes qui font qu'on se trouve bien dans un roman, je trouve que c'est amusant de satisfaire à quelques-uns et en même temps d'en déjouer d'autres. Et c'est pour ça aussi que, que comme vous le disiez, le roman est assez labyrinthique, un peu sinueux, et puis qu'il est composé de fragments, c'est-à-dire que parfois il y a juste une seule phrase sur une page, parfois c'est un paragraphe, et parfois on a 10 pages ou 12 pages à la suite. Voilà.
Il y a aussi beaucoup d'allusions au sport. Alors, le héros joue au basket, mais il... Alors, je n'ai pas raconté, en fait. C'est vrai qu'il y a aussi autre chose, en fait. On en reparlera plus tard du sport. Donc, ce jeune narrateur doit subvenir à ses besoins, parce que c'est bien beau d'écrire une thèse, même s'il a beaucoup de mal à l'écrire, mais il faut aussi qu'il vive. Il n'a pas beaucoup d'argent, donc il va essayer de trouver de quoi subsister. Et il va répondre à une annonce pour travailler donc dans une entreprise qui est une start-up. Une start-up qui est spécialisée dans le recouvrement de dettes. Et là, il va faire la connaissance de la directrice, je pense, de l'entreprise, en tout cas c'est son supérieur hiérarchique, qui a des méthodes de management un peu particulières. Alors voilà, vous allez pouvoir nous en parler un petit peu, parce que je crois que ça aussi, ça vous tient à cœur.
Oui, oui, alors effectivement, le narrateur répond un peu au hasard à une annonce, et il se retrouve dans cette boîte face à la patronne qui s'appelle Nadine. Alors très vite, il se rend compte que cette tâche ne correspond pas du tout à ses capacités. Donc pour dire en deux mots, le recouvrement de dettes, ce sont des... En gros, les entreprises qui font ça rachètent à des grands groupes souvent des petites dettes que leur doivent leurs clients et qu'ils n'ont pas réglées. Et en l'occurrence, cette petite entreprise essaie de contacter les clients pour leur réclamer, par exemple, 17 euros. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, le narrateur se retrouve dans cet endroit un peu largué. Parce que vous savez, on dit souvent que, bon, alors, plutôt l'Allemagne plutôt qu'à Berlin, mais que l'Allemagne, bon voilà, c'est le paradis pour le travail, enfin, c'est génial et tout. Et bon, comme j'aime bien dégriser un peu, j'ai trouvé ça marrant de montrer aussi l'aspect un peu négatif. Avec une culture du travail. Il y a beaucoup de mini-jobs en Allemagne, c'est ces trucs qui sont payés même pas 400 euros par mois, où on est obligé de faire un nombre d'heures par semaine monumental. Et en l'occurrence, là, il tombe dans un truc bon, qui n'est pas trop mal payé, mais bon, c'est quand même pas la joie. Et en fait, cette fameuse Nadine a des méthodes de management un petit peu particulières qui s'inscrivent un peu dans une sorte de tendance contemporaine qui va au fun, au cool et à la fête, quoi. Et donc, si bien qu'à un moment, elle dit à tous ses employés, bah, je vais vous faire un match de ping-pong tous ensemble. Et le narrateur, à un moment, est mis en situation de se matcher. Or, il se retrouve face à Nadine. Ils font une espèce de tournante. Et c'est Nadine qui est en face, et là le narrateur se dit mais ce matcher, est-ce bien corporate? Parce que si vous voulez, il est confronté au code d'un côté, code du sport, et de l'autre, code de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est là quand même pour essayer de juguler nos passions en les mettant dans des cases et en essayant de recouvrir ça. Et en l'occurrence, est-ce que le smash, c'est pas un acte qui est un petit peu trop symbolique pour quelque chose qui se veut aussi lisse et aussi cool et fun en l'occurrence? Et moi, ça m'intéresse parce que je suis assez irrité par cette forme d'infantilisation contemporaine, en fait, qu'on voit pas mal, notamment une entreprise. Alors en ce moment, je vois leur nouveau spot télé, je me dis, mais de qui se moque-t-on? Enfin, je sais pas, ils sont dans ce... Je lisais encore un article il n'y a pas longtemps sur leur méthode de management. Alors en fait, donc dans l'entreprise, on n'est pas appelé des salariés, mais des trublions. Et alors, voilà, donc on participe pas à une entreprise, mais à une aventure. Bon, alors, dès qu'on émet apparemment un doute sur quoi que ce soit, c'est qu'on veut sortir de l'aventure, enfin voilà. Oui, parce que, visiblement, les trublions, quand ils agissent comme des trublions, c'est-à-dire qu'ils émettent la moindre critique, vraiment, ils sont retoqués immédiatement. Donc voilà, je trouve ça marrant de voir à quel point on cache sous une espèce de bonhomie de façade, quelque chose qui est assez violent, et de voir aussi comment, bah voilà, quand l'autorité, quand on sort l'autorité par la porte, elle revient par la fenêtre.
Alors d'autre part, en effet, donc, comme je disais tout à l'heure, ce personnage est un sportif, puisqu'il joue au basket. Il joue au basket et donc il joue aussi au ping-pong. Est-ce que pour vous, le sport est une métaphore des relations humaines?
Mais alors ça, effectivement, c'est vraiment intéressant parce que le plaisir du sport, le plaisir d'y jouer et de le regarder, ça tient au respect d'une règle qui est convenue. Si jamais d'un seul coup, on dit, je mets mon ballon de basket sous le bras et puis je cours jusqu'au bout du terrain sans dribbler, bah, ça n'amuse plus personne. Et il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans le sport, c'est à quel point effectivement on se passionne pour cette convention. Et j'avais lu un livre de William James qui s'appelle Le pragmatisme, et dans lequel il dit... si le but du football était vraiment de mettre le ballon au fond des cages, les joueurs n'auraient qu'à s'introduire par une nuit obscure dans le stade pour l'y déposer. Je sais pas, j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve que ça montre un peu le truc. Et c'est drôle parce que il y a eu un article dans Le Monde sur le livre. Et effectivement, c'était un article d'Éric Chevillard qui parlait du ping-pong comme métaphore, en fait, de la distance entre le narrateur et sa petite amie qui était à Paris. Et il dit finalement que, voilà, comme au ping-pong, il y a ce paradoxe que quand on recule de la table de manière... Enfin, quand on recule très, très loin de la table. Finalement, les balles sont plus faciles à rattraper parce qu'elles ralentissent. Eh bien, quand on est éloigné de sa petite amie qui est à 1000 km, on est obligé de fomenter une répartie qui vaille le coup.
Alors, L'été slovène, c'était un livre sur le désamour, comme je disais tout à l'heure. Alors, justement, on va parler d'amour. Est-ce que ça, c'est Lève-toi et charme, est-ce que c'est un roman d'amour?
Alors, bonne question. Bonne question. Je trouve qu'il y a une énergie qui est propre au genre, dans la mesure où, effectivement, on disait tout à l'heure que voilà, je respectais un peu les codes du roman et puis du roman d'amour. Mais j'ai un ami qui est ergonome, c'est cette discipline qui consiste à... Enfin, lui, il bosse sur les sites internet. Donc il consiste à faire en sorte qu'un site soit constitué pour un cerveau humain, vous voyez. Et il m'a appris un mot qui est le mot affordant. Et donc c'est un mot qui désigne les objets qui sont intuitifs, en fait, qui sont pensés pour une personne humaine. Et est affordant un objet qu'on sait comment utiliser. Bon. Et... moi, j'ai à cœur de faire des livres qui soient affordants, c'est-à-dire que on ait une poignée pour les saisir. Et en l'occurrence, le genre est une poignée pour saisir un livre, puisque je ne sais pas si j'ai voulu écrire un roman d'amour, parce que dans ce cas-là, je ne sais pas si ce serait une grande réussite. Mais disons que j'aime bien cet horizon d'attente du roman d'amour, parce que ça permet d'avoir le double plaisir d'y satisfaire et en même temps de le décevoir. Seulement, voilà, ça ne se passe pas exactement comme dans un roman d'amour, puisque il n'y a pas forcément toutes les satisfactions qui.
Alors Dora, enfin, on en revient toujours à Dora. Dora a une théorie sur. Je disais tout à l'heure qu'elle elle essaye toujours de recréer sa vie, mais elle a aussi une théorie sur. La vie permise et la vie potentielle. En fait, elle explique que la vie permise n'est qu'une toute petite partie de la vie potentielle. Et elle, justement, ce qu'elle cherche à vivre, c'est cette vie potentielle. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, je crois, dans ce livre. Cette recherche de la vie potentielle.
Oui, c'est-à-dire... comment faire usage du monde, comme dirait Nicolas Bouvier, quoi. C'est-à-dire qu'on a un réel qui nous est donné sans qu'on l'ait généralement choisi. Et puis, on se rend compte que malgré tous nos efforts de singularité, on finit toujours par se retrouver dans les schèmes et dans les moules qu'on a créés pour nous. Et ce que je trouve marrant, c'est à quel point, finalement, dans la marginalité, et je lisais un article là-dessus récemment, on retrouve des codes qui sont tout aussi rigides, sinon plus... que dans la vie, entre guillemets, normale. Et effectivement, j'ai l'impression qu'au fond, tout le monde a peut-être cette question de se dire, mais comment j'aurais vécu si je n'avais pas été influencé par toutes sortes de déterminismes, ceux de ma famille, ceux de l'époque dans laquelle je suis né.
On parle du potentiel, alors.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que je me pose un peu la même question en littérature, c'est-à-dire comment écrirais-je un roman si je n'avais jamais lu de roman ? Idée complètement stupide, puisque le plaisir du roman est justement aussi dans le respect d'un certain nombre de normes, et les lecteurs de polar le savent bien, parce que au fond, les lecteurs de polar n'aiment rien tant que retrouver des... et j'en suis un. Retrouver des choses qui leur sont chères et les deux intrigues qui se croisent, etc. Mais je crois au fond que votre question soulève quelque chose qui est assez central dans le livre, qui est la question de l'absolu, c'est-à-dire en l'occurrence ne plus être rattaché à une époque, une famille, une ville, etc. Essayer de voir et de réfléchir dans l'absolu, c'est-à-dire quand le narrateur rencontre cette jeune fille, Dora, il se dit, mais est-ce que Dora m'aurait plu dans l'absolu ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle m'aurait plu s'il n'y avait pas tous ces éléments accidentels chez elle qui me plaisent, à savoir le fait qu'elle soit étrangère, le fait qu'elle soit dans cette ville. Et en fait, en y réfléchissant, il se rend compte que cet absolu n'a aucun sens, puisque Y réfléchir, c'est postuler l'existence d'un lieu et d'un instant où jamais il ne la rencontrera.
Alors, en fait, c'est un roman dans lequel le personnage qui était normalement là pour étudier une thèse va finalement l'éprouver. Il va l'éprouver dans tout ce qu'il va vivre avec cette jeune femme, mais aussi au quotidien. Et finalement, est-ce que c'est ça un roman d'apprentissage ? Est-ce qu'on peut appeler ça un roman d'apprentissage ?
Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments d'un roman d'apprentissage. Il y a une confrontation au monde, lequel monde n'est jamais très clément. Et voilà. Oui. Et donc voilà. Il y a amour, il y a travail. Enfin, il y a les choses qui en général nous posent problème, quoi.
Alors, je voulais à un moment donné parler d'une phrase qui m'a frappée. Alors, à un moment donné, le jeune donc ce jeune narrateur, puisqu'il n'a pas de nom, dessine un calligramme pour Annabelle, qui va venir passer quelques jours, enfin sa petite amie de Paris, va venir passer quelques jours avec lui à Berlin. Et bon, ça ne se passe pas exactement comme il aurait aimé, mais bon, en tout cas, il écrit un petit calligramme. Et alors donc, il dit à ce moment-là, l'exercice du calligramme s'apparente à l'écriture d'un roman, la recherche d'un équilibre funambulesque entre la partie et le tout, un œil au microscope et l'autre dans la longue vue. Alors, est-ce que c'est ça la définition de l'art du roman pour Clément Benesch ?
Oui, c'est vraiment une question importante. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, en tout cas, parce que c'est assez énervant quand on entend toujours « il y a deux types d'eux, il y a deux types d'eux ». Bon, mais en l'occurrence, à cet égard, il y a deux types d'écrivains. Il y a ceux pour qui, je pense, la partie précède le tout, et ceux pour qui c'est le contraire. C'est-à-dire que vous avez des écrivains... on va dire Flaubert ou Hugo, pour qui l'idée générale va précéder les éléments qui vont la composer. Et il y en a d'autres, comme cet écrivain que j'adore, Éric Chevillard, qui sont plus des écrivains de la partie, c'est-à-dire que leurs fragments, en fait, quand ils écrivent un roman, vont être cousus pour obtenir un roman total, enfin un roman complet plutôt, parce qu'un roman total c'est autre chose. Mais moi, je trouve ça assez intéressant de voir comment les écrivains arrivent à s'en sortir avec cette obligation, quand ils ont une idée générale, de la remplir, ou quand ils ont des idées particulières, d'arriver à en tirer quelque chose de cohérent, et qui arrive à se tenir en soi. Et donc, effectivement, j'ai mis cette phrase un peu en clin d'œil au roman même dans laquelle elle est contenue, puisque c'est un roman qui fonctionne par fragments, parce que moi, je suis plutôt un écrivain de la partie, parce que j'ai des idées qui me viennent par petits bouts, des bouts d'idées, je me dis « ah, ça ferait une bonne scène », etc. Et après, tout l'enjeu et le travail, si je puis dire, c'est déjà d'arriver à mettre de côté ce qui ne rentrera jamais, ce que j'ai un peu de mal à faire, et d'un autre, arriver à agencer pour que finalement ça donne l'illusion, puisque le tout est de donner l'illusion non seulement d'un tout, mais aussi de quelque chose de vécu. Parce que c'est aussi pour ça que mon personnage n'a pas de prénom, c'est parce que ça me semble très important de laisser croire que ce que je raconte est vrai de A à Z. Et donc, c'est pour ça aussi que j'utilise les codes de l'autofiction, et en fait, si je l'avais appelé Clément, je pense qu'on aurait plus cru que c'était de la fiction. Et là, j'ai envie de faire croire que c'est vraiment réel. Donc du coup, je donne plein d'indices de réel, alors que c'est de la fiction. Mais comme ça, mes proches, ils pensent que c'est vraiment très, très vrai, quoi.
Alors justement, le livre, quand vous le feuilletez, a un aspect particulier. Il est parsemé de croquis, mais aussi de photos. On peut l'apparenter donc au photoroman, qui est un genre particulier, qui est finalement assez rare, mais qui je crois, ça, là aussi, vous tient à cœur. Mmh. le genre et l'aspect du photoroman.
Oui, oui, ça me passionne pas mal. Alors en fait, l'histoire, c'est que j'avais pris une photo à Berlin avec mon téléphone. À l'époque, j'avais un BlackBerry pour la petite histoire. Bon, c'est qu'il y a un téléphone qui prend des photos assez nulles, en fait. Et j'avais envie de parler de cette photo, qui était la photo d'une fille sur un rebord de fenêtre. Et donc, en premier lieu, je me mets à décrire cette image. Et puis, finalement, je me dis que je la dénature en la décrivant et en transformant en mots ce qui est, en fait, à l'origine, une image. Et c'est à peu près au même moment que j'ai découvert Nadja de Breton, dont j'avais déjà entendu parler, mais là, je l'ai lu pour la première fois. Donc, c'était, voilà, en 2013. Et je me suis dit, mais il y a vraiment un enjeu dans cette cohabitation texte et image qui me semblait passionnant. Et il se trouve qu'avant l'été slovène, j'avais déjà écrit trois manuscrits de romans. Et je me disais au fond que c'était Breton qui avait un peu créé ce désir de photo. Et en relisant des vieux carnets de 2009-2010, j'ai vu que j'avais déjà réfléchi à cette question auparavant de mettre des images et tout. Et ça a été le point de départ pour moi d'une réflexion sur les différences entre texte et image, et surtout qu'est-ce qu'on peut transmettre avec un signe, enfin en l'occurrence, ou avec un texte, ou avec une image. Et il me semblait en l'occurrence que ce qui était plaisant dans cette image, qui est donc maintenant insérée telle quelle dans le livre, ce qui était plaisant aurait perdu beaucoup de sa substance si je l'avais décrit. Et peut-être pas parce que ma description allait être mauvaise ou pas exacte, mais peut-être parce que la plupart ou la quasi-totalité du charme de cette photo tenait à son instantanéité. Et le fait que les photos nous frappent et soient instantanées, mais au fond comme les tableaux, me semble être, à la réflexion, une grande partie de leur charme. Et ça a été le point de départ, en fait, de la décision de mettre d'autres photos dans ce livre qui maintenant en contient 11 ou 12, je crois. Et donc voilà, il y a des photos, il y a des dessins, il y a un montage que j'ai fait sur Paint, et il y a deux plans d'appartement.
Très réussi.
Et il y a deux plans d'appartement, et si vous voulez, ce sont des choses que je ne pense pas que j'aurais pu les faire autrement. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment il y a tout un passage qui est en chat Facebook, et ça me semblait important que la forme colle à l'idée que j'avais, sans faire du formalisme, c'est-à-dire que le but n'est pas d'introduire des formes hétéroclites, dans le roman et de casser le rythme. Le but est d'exprimer exactement ce que je souhaitais exprimer.
Et est-ce que justement, on ne peut pas parler de complémentarité là, justement, c'est ou l'un ou l'autre. Il ne pouvait pas y avoir autre chose, c'était ou l'un ou l'autre. Donc voilà, il y a à un moment donné quand même, vous amusez un petit peu là aussi avec le lecteur, parce que vous parlez de la jolie poitrine de Annabelle, et vous mettez « voir photo ». Il n'y a pas de photo.
Oui, alors ça c'est une petite blague que j'avais déjà faite dans l'été slovène, au moment où le narrateur lit justement un livre de géographie sur les tombolos. Et en fait, c'est une blague que j'ai piquée à Pierre Desproges, que j'adore, parce que moi, j'ai lu quasiment tous ces trucs, et il fait souvent cette blague, en fait, de mettre entre parenthèses « voir figure 1 » quand il parle de choses qui n'ont absolument aucun sens, enfin, ou parfois de trucs sexuels aussi, donc c'était pour ça que... Voilà. Et puis c'était d'autant plus blaguesque que par ailleurs il y avait des photos, donc on sait que j'aurais pu la mettre si j'avais voulu.
Alors bon, j'ai une petite question très intéressée. Dans vos deux livres, il est beaucoup question de chats. Alors, moi j'adore les chats, alors évidemment on sait aussi que vous les aimez. Et je me disais aussi peut-être aussi parce que vous avez envie donner l'impression d'avancer dans vos romans sur des pattes de velours.
Oui, oui, c'est une comparaison assez efficace. Bah, les chats ont une vie quand même assez enviable. Globalement, ils passent leur temps sur un fauteuil. Et puis, quand ils veulent bouffer, ils miaulent. Hein, je veux dire, bon. Bon, néanmoins, ça peut effectivement être un petit peu ennuyeux au bout d'un moment. Mais le mien a l'air de s'en accommoder assez bien. Donc voilà. Oui, c'était effectivement un petit clin d'œil au premier roman. Et puis, encore une fois, le chat est ici nécessaire pour précipiter une scène. Et donc, c'est au bénéfice de la partie, en l'occurrence, qu'il est apparu dans le tout. Puisque pour créer une scène, j'ai été obligé. Je me disais, bon, là, il faut qu'il y ait un chat. Et donc, du coup, il y a eu un chat. Quoi.
Et dans l'été slovène, il ne faut pas oublier aussi que la petite copine du narrateur l'appelle aussi mon chat.
Ouais.
Donc, c'est quand même. Voilà, c'est une figure très, très présente dans votre littérature, le chat.
Les registres félins, ouais.
La pyramide, ah mais on n'a pas tout à fait parlé, mais c'est vrai que
ouais,
on peut en parler maintenant.
La pyramide.
C'est des questions de ce photomontage, en effet.
Je peux ? Page 118. Alors, donc en fait, il y a une photo du narrateur, qui est en l'occurrence moi, mais c'est, justement, ça fait partie des clins d'œil au lecteur, qui est au pied d'une pyramide. Et en fait, c'est un montage que j'ai fait sur Paint en prenant une photo de moi debout. Et en l'inclinant à 90 degrés et en la collant en dessous de la pyramide, en disant voilà, j'ai envoyé à Dora une photo de moi en train de faire la sieste en Égypte. Je trouve que ça, en fait, c'est une blague, mais elle ne fonctionnerait pas si je la racontais, encore une fois. C'est-à-dire que c'est une blague visuelle qui fait partie aussi d'une espèce d'humour internet qui est assez récent et qui consiste à faire des choses volontairement et ostentatoirement ratées. Voilà, c'est mon humour.
Alors, en parlant d'humour, il m'a semblé quand même que dans... Enfin, ce livre donc se passe à Berlin, avec un jeune homme qui a beaucoup de mal à écrire cette thèse. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à un livre de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle « La télévision », où un historien de l'art a beaucoup de mal aussi à écrire un article sur le Titien et qui donc décide d'arrêter de regarder la télévision. Voilà. Donc, je suppose... J'espère en tout cas qu'il y a un petit clin d'œil à Jean-Philippe Toussaint dans ce livre-là.
Tout à fait, il y en a plus d'un d'ailleurs. C'est drôle que vous parliez de ce livre, puisque Toussaint était invité sur France Culture assez récemment, il y a 2 ou 3 mois, et il était interrogé à propos de la télévision, et il disait « mais la télévision, c'est un éloge de la vie réelle ». Donc c'est un personnage qui éteint sa télé, et du coup il se met à vivre, alors il va nager, il garde la plante de son voisin, c'est toujours des trucs assez minimes. Mais oui, moi il y a effectivement pas mal d'allusions à Toussaint, le directeur de thèse s'appelle Edmondson, ce qui est le nom de la jeune amie du narrateur dans la salle de bain, le premier livre de Jean-Philippe Toussaint. Donc effectivement il y a vraiment un clin d'œil, une filiation chez Pomme et un clin d'œil.
Je voudrais juste savoir s'il y a des projets en cours pour Clément. Voilà.
Alors oui, en fait, j'écris en ce moment une sorte de petit texte qui va peut-être prendre la forme d'un manifeste et qui se penche sur le cas de la photo dans le roman. Parce que donc moi, ça m'intéresse pas mal et je trouve que c'est un sujet qui est souvent... occulté par la critique et qui n'intéresse pas beaucoup les universitaires, étonnamment. Et même quand on parle de Nadja de Breton, qui a quand même été le premier livre, bon, il y a eu Rodenbach une trentaine d'années auparavant, mais disons que Nadja, ça a été vraiment... il y avait une dimension prosélyte. Et ça n'a vraiment jamais beaucoup intéressé les critiques. Et même quand ils parlent de Nadja, en général, les photos, c'est abordé comme une espèce de fantaisie d'auteur, alors que c'est quand même quelque chose, une révolution dans la description, dans la manière de concevoir un roman. Et moi, à cet égard, j'aime beaucoup l'écrivain allemand Sebald, que j'ai beaucoup lu ces derniers temps, qui, lui, a réussi à quand même porter au plus haut point cette collaboration entre texte et image, vraiment en essayant de chercher le propre de chacun. Et c'est pourquoi je suis en train de rassembler un peu toutes les réflexions que j'ai écrites à ce sujet, ou sur mon blog, ou dans mes carnets. Et puis j'ai un autre roman sur le feu, mais ça sera pas avant 2 ans, 2 ou 3 ans, je pense, parce qu'il devrait être assez long. Et ça sera extrêmement moderne, je pense, parce qu'il y aura pas mal de photos, de captures d'écran, de trucs, enfin voilà. Et ça se passera à New York.
Ah.
Et encore assez mondialisé, puisque voilà. Ce serait
voilà,
l'histoire d'amour entre un Roumain et une Française. Voilà.
Eh bien, merci à vous en tout cas d'être venu pour rencontrer Clément. Et puis, on espère le voir très très vite pour son prochain livre.